pour vacances. Et pour les internautes, on est avec Valérie Utopia, voilà. Et que c'est l'inauguration du premier cycle. Bah bon, je te laisse faire.
Donc bonjour à toutes et tous. Bonjour à ceux qui sont avec nous ici à Valérie Utopia et bonjour à ceux qui nous ont rejoints en distanciel par Zoom. Merci à toutes et tous d'être là pour cette première séance du cycle.
Et comme tu veux, si tu veux te retirer, parce qu'on entend mieux quand il n'y a pas de masque.
Bon, je vais commencer par la présentation.
Si tu es d'accord.
Merci d'être là pour cette première séance du cycle sur la sobriété qu'on organise de manière conjointe entre le mouvement Utopia et la Fondation de l'écologie politique. On est donc présent ici à la librairie du mouvement Utopia, 1 rue Frédéric Sauton à Paris dans le 5e. Et c'est donc la première de ces rencontres sur la sobriété. Donc aujourd'hui avec Fabrice Pipot, qui est l'auteur notamment de cet ouvrage « L'impératif de la sobriété numérique ». Qui est paru il y a à peu près un an et il y a quelques mois également d'un autre ouvrage qui s'appelle « La numérisation du monde ». Donc deux ouvrages un peu complémentaires ou disons qui s'adressent à deux publics un peu différents, peut-être l'impératif de la sobriété numérique pour ceux qui sont vraiment très calés sur ces questions et qui veulent l'être, et « La numérisation du monde », peut-être plus grand public. Je dirais. Donc ça, c'est notre première séance. Et je voulais donc également vous signaler qu'on a déjà deux autres séances qui sont programmées pour la suite. Une séance le 9 mars autour de l'ouvrage Le choix des sobriétés, qui est donc un ouvrage du pacte civique et donc pour lequel on aura le plaisir de recevoir Elisabeth Javelot, qui a coordonné pour le pacte civique cet ouvrage. Et le 30 mars, avec Elisabeth Nicolosso, qui est l'autrice d'un ouvrage qui s'appelle « Petit traité de sobriété énergétique ». Donc là, on sera directement sur les questions d'énergie. Voilà, donc deux autres rendez-vous. Donc vous pouvez prendre note tout de suite, le 9 mars et le 30 mars. Donc de nouveau à la librairie Utopia. On a eu envie de lancer ce cycle sobriété avec le mouvement Utopia parce qu'on considère que c'est une question peut-être qui est un petit peu un point mort du débat médiatique actuellement. Vous savez, on est dans un modèle économique, un modèle de société très fortement basé sur l'ultra-consommation. On a de la peine à freiner les niveaux de production, d'extractivisme qui ont lieu actuellement. On avait pensé pendant la crise du Covid, à un moment, on nous avait promis un monde d'après sur lequel on freinerait un peu sur ces questions-là, et on s'aperçoit que pas du tout, au contraire, on est face à un rebond qui nous emmène vers encore plus de consommation, d'extractivisme, etc. Et donc, on est vraiment là au cœur de ces questions. On est vraiment au cœur de ce problème qui est au centre des réflexions du mouvement écologiste depuis les années 60-70, depuis... l'apparition du rapport des limites à la croissance qui va avoir 50 ans cette année, cette question de comment on peut faire tenir nos modes de vie sur un modèle de toujours plus de production alors qu'on est sur une planète avec des ressources limitées, un monde limité. Et donc, pour nous, cette question de la sobriété, cette capacité d'auto-limitation est vraiment au cœur des enjeux pour pouvoir aller vers une bifurcation de notre modèle de société, d'où ce choix d'entamer ce cycle sur ces questions de sobriété. Et donc, pour cette première séance, on a la joie de recevoir Fabrice, avec lequel la Fondation a déjà pas mal collaboré sur ces questions de numérique et de sobriété par rapport aux questions de mode de vie. Je te laisserai un peu présenter l'ouvrage et tes travaux. Je ne sais pas si je veux en faire une présentation très rapide. Ce qui t'anime quand même dans cette question, c'est de voir un peu comment le numérique s'est mis en marche dans la société, comment on a cette numérisation de la société, un peu un développement sans fin du numérique qui se développe et qui est aussi une illustration de quelque chose qui est au cœur des préoccupations des écologistes, qui est ce phénomène d'effet rebond ou d'effet Jevons, comme on dit, c'est-à-dire que au cœur de ces questions où le rapport efficacité développement de la production est complètement qu'on est incapable de freiner. Et le numérique en est une parfaite illustration. Et tu appliques véritablement cette question à la question du numérique avec une approche méso-analytique qui permet de replacer cette question, de refaire une question politique qui nous amène à une autre dimension que celle par laquelle le problème est souvent pris, c'est-à-dire soit la question des choix individuels, où en fait la responsabilité serait celle des individus par leur action en tant que consommateur, qui serait à eux en fait de résoudre le problème simplement par leur activité consumériste, ce qui serait la première alternative, ou la deuxième alternative qui serait, elle, complètement sur une question entièrement de planification, de régulation de la société, où donc devrait prendre le problème par cette question d'imposition de normes, mais qui du coup nous renvoie à des questions de problèmes de liberté publique, de mesures un peu liberticides, etc. Et la question que tu mets, l'analyse que tu mets en avant dans l'ouvrage, c'est vraiment cette question de remettre le problème au centre des questions des modes de vie et de la mise en place de modes de vie écologistes, qui nous permet voilà, d'essayer de trouver une voie médiane entre ces deux écueils. Donc voilà, donc je vais te laisser présenter ton travail. Ça fait longtemps que tu travailles sur ces questions de numérique, voilà, c'est forcément un tracé historique assez important pour toi, parce que ça fait, je crois que tes premières études peut-être il y a bien 20 ans,
15 ans, une bonne quinzaine d'années, ouais. 2006.
Et donc en plus, ouais, une évolution de ces questions sur lesquelles tu as pu avoir une analyse vraiment pertinente. Donc voilà, je te laisse nous présenter ces travaux. Merci en tout cas d'être avec nous.
Ben, merci de votre invitation. Alors évidemment, comme le bouquin est épais, il faut choisir dans ce que je vais dire. Donc vous ne voudrez pas d'être un peu lapidaire à certains égards, parce que bon, ben voilà, le format contraint quand même à aller à l'essentiel.
Alors, je vais juste rajouter que pour ceux qui sont par l'écran, ils peuvent mettre des questions ou des commentaires par l'ordinateur, on les verra et tu pourras y répondre directement.
Donc, le choix que j'ai fait, c'est de parler, disons, deux tiers sobriété, un tiers numérique, ce qui d'habitude, je fais plutôt l'inverse, voire même je fais 4/5 de numérique et 1/5 de sobriété. Mais bon, enfin voilà, c'était une question de tout un tas de choses qu'on peut dire. Bon, pour résumer les enjeux du numérique, donc oui, effectivement, ça fait depuis, enfin, le premier rapport qu'on a sorti, c'était en 2006 sur les déchets électroniques, en 2009 sur les TIC vertes, et les termes du débat étaient globalement à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, donc on ne peut pas dire que j'étais complètement dépaysé. Ce qu'il y a, c'est qu'à cette époque-là, le smartphone était celui qu'on connaît avec les applis, hein. Il était quasiment inexistant encore, et donc il était absent du bouquin. C'était quand même un petit peu dommage, vu que maintenant, c'est l'objet central. Donc, il fallait faire une grosse mise à jour, et puis surtout, revenir un peu sur ce que c'est que la numérisation et pourquoi ça s'envole, quoi. Bon, très rapidement, les enjeux du numérique, c'est simple. 2007, 2% des émissions de gaz à effet de serre global. 2020, 4% des émissions de gaz à effet de serre global. Donc, en 15 ans, on va dire, on est passé de 2 à 4% des émissions de gaz à effet de serre, le numérique, tout seul. Donc, on peut dire que le numérique ne va pas dans le bon sens. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. C'est... Alors, tous les autres disent qu'il faut réduire le numérique. Lui, oh, on s'en fout, on y va, c'est gratuit. Donc, alors pourquoi ça ? Il y a les travaux du Shift Project, mais qui insistent beaucoup sur la vidéo. Mais je pense qu'il faut regarder quand même un petit peu plus loin et s'apercevoir que bon, le numérique, c'est une machine inventée en 1945, ou disons autour de 1945, dans les années 40, disons pour simplifier. C'est la même aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'il y a juste des améliorations marginales en fait, sur le principe de la machine qui est toujours le même. De la même manière que dans l'automobile, tout était inventé en 1900 et il n'y a pas eu de grande. Si, il y a eu le turbocompresseur. C'est des rares inventions disons, qui sont venues plus tard, mais la voiture électrique existait déjà. Enfin bon, voilà. Les principes généraux technologiques existaient et ils ont été raffinés. Alors, il faut quand même remarquer qu'avec le numérique, le raffinement a été très loin, notamment en termes d'efficacité énergétique. Je ne veux pas être trop technique, mais un ordinateur d'aujourd'hui, pour faire une unité d'information, ça consomme 10 milliards de fois moins d'énergie que le premier ordinateur. 10 milliards de fois moins d'énergie. Donc ça a alimenté aussi un imaginaire de ça coûte rien. Ou en tout cas, si ça coûte pas encore rien, ça va pas tarder à coûter rien, en fait. C'est l'histoire d'efficacité énergétique. Voilà. Alors, le seul problème, c'est que pour l'instant, l'explosion de la consommation de données, puisque ça augmente les gaz à effet de serre, c'est donc que ça ne marche pas tant que ça, en fait, les gains en efficacité énergétique, hein, on est d'accord. L'explosion de la consommation de données compense, plus que compense, les gains en efficacité énergétique. Donc la quantité de données augmente, chaque donnée pèse moins lourd, mais ça augmente tellement que ça finit par faire plus de poids. Voilà, en gros, hein, je schématise. Et donc, la seule solution, c'est moins de données. Et voilà, ça s'appelle la sobriété. Alors, quand on a dit ça, bon, faut expliquer un peu plus ce qu'on veut dire par là, mais je pense que c'est ça les termes du débat. Hein. Il y a deux variables, et d'ailleurs, les graphiques principaux qui circulent dans ce débat-là, il y a deux variables, la quantité de data et puis la quantité d'énergie dépensée par les data. Alors, certains vont dire, oui, mais attention, ce qui compte, c'est les terminaux, la fabrication des terminaux. Qui effectivement, dans le cas du smartphone, ça va être 90% de la consommation d'énergie totale. Dans le cas de la télé, 40%. Bon, en gros, c'est la moitié qui est à la fabrication. Oui, mais la fabrication des terminaux, elle sert à quoi? Ben, elle sert à faire transiter des datas. Sinon, pourquoi voulez-vous avoir des terminaux si ce n'est pas pour faire transiter des datas? Donc, la data reste quand même l'élément principal de l'histoire. C'est aussi à cause de la data qu'on renouvelle le matériel, parce que c'est le logiciel. Avant tout, qui traitant toujours plus de data, ben, on vient à, disons, épuiser en quelque sorte, on devrait dépasser le support matériel qui a été conçu à une certaine époque et qu'il faut donc remplacer par un support matériel qui va être un peu up-to-date pour faire face à l'inflation de data. Mais la data, c'est le truc cardinal qui détermine tout, en fait. Hein. Alors, après, sobriété, qu'est-ce que. Je vais faire un petit peu de philo maintenant.
Alors, juste une
Ouais.
insiste, du coup, il y a la question de l'efficacité,
Ouais.
hein, tu l'as dit, mais dans le numérique, il y a aussi la question de la substitution. En fait, on nous dit, certes, ça augmente, mais c'est parce qu'on substitue
Je vais y
d'autres
venir.
usages. D'accord, voilà.
Je vais y venir. Dans les autres secteurs, tu veux dire. Oui, ça c'est. J'ai parlé du Green IT. C'est très bien que tu parles du IT for Green. OK. Parce qu'effectivement, disons, pour dire tout de suite, dévoiler un peu la chose, en 2007, quand le chiffre 2% des émissions de gaz à effet de serre planétaire est sorti, les industries ont dit oui, ça pollue, d'accord, mais grâce au numérique, on va dépolluer les autres secteurs. Donc, voitures autonomes, smart grids, tout devient smart, et grâce à ça, on réduit les gaz à effet de serre de tous les autres secteurs. Donc, on est 15 ans après, il ne s'est rien passé, hein, ou pratiquement rien. Donc, je vais revenir pour expliquer le pourquoi du comment. Alors, quand on vient sur sobriété, bon, on trouve sobriété dans la loi sur la transition écologique pour la croissance verte, hein, et sobriété est souvent confondue avec efficacité. C'est-à-dire que ce qu'on prend pour de la sobriété, en réalité, est de l'efficacité. Et on peut se donner juste un petit exemple, hein, on peut se dire que, enfin, c'est un exemple qui est souvent donné, hein, General Electric a publié un rapport il y a 2-3 ans en expliquant que grâce aux smart grids, il va pouvoir, disons, assurer un service énergétique, mais en consommant moins d'énergie. Il y aura moins de pertes dans le système, ça sera mieux réparti et tout et tout. Bon, très bien, OK. Sauf que ce que le rapport précise pas, enfin, il le dit, mais il ne le chiffre pas, c'est que cette solution permet à General Electric aussi de gagner de l'argent. Donc, ça a l'air vertueux, non, mais en plus, c'est écolo, en plus, on gagne de l'argent. Oui, sauf que la quantité totale de gaz à effet de serre émise doit tenir compte de ce que General Electric va faire avec l'argent qu'il a économisé. Sinon, c'est un faux calcul. Hein, on retire une partie en fait du résultat. Et donc, si on retire une partie du résultat, forcément, il va finir par être positif. Si on remet le tout dans la machine, en fait, on s'aperçoit que le numérique permet bien disons, d'optimiser le système, mais en grande partie pour gagner de l'argent. l'argent étant réinvesti pour consommer plus. Donc, au final, le numérique permet plutôt de consommer plus. Hein, je vais revenir là-dessus. Donc, sobriété est rarement définie. Sobriété, quand on regarde dans le grand théoricien de la sobriété, c'est Aristote. Et Aristote, ce qu'il dit, quand il parle de sobriété, il parle de juste mesure. C'est-à-dire que manger trop, ce n'est pas bon pour la santé. Manger pas assez, ce n'est pas bon non plus. Donc, la sobriété, ce n'est pas d'excès, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, quelque part, pour Aristote, c'est la vertu des vertus. C'est la vertu de l'équilibre, en fait. Et les autres, toutes les autres vertus sont susceptibles d'excès ou de défauts, sauf la sobriété qui est la vertu d'équilibre, par définition. Donc, c'est la vertu des vertus. Et Aristote relie la vertu de sobriété à un régime politique qui est la démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a que la démocratie qui met en valeur la vertu de sobriété, la vertu disons, ça peut être considéré comme une vertu, hein, mais de s'enrichir, par exemple, ça mène à la plutocratie ou à l'oligarchie, ça ne mène pas à la démocratie pour Aristote. Hein. Donc, l'équilibre, la vertu d'équilibre est consubstantielle, en fait, à la démocratie. Et ça, ça revient tout le temps. Chez Platon aussi, dans le mythe de Prométhée, ce qui permet à l'homme de dominer les arts, le feu, les techniques, en fait, c'est la justice. Et la justice, c'est un principe aussi d'équilibre. Donc, on va y revenir beaucoup sur cette question de l'équilibre dans la sobriété. Alors, quand on regarde les travaux philo plus récents, cette idée a été réactualisée par un auteur, notamment américain, où il dit, c'est pareil, dans le rapport avec les écosystèmes, il ne faut pas prendre trop, mais pas assez non plus. Parce que l'activité humaine dans un écosystème organise, a une influence qui peut être considérée comme positive sur l'écosystème, un équilibre entre différentes populations, ça dépend ce qu'on cherche, évidemment, mais l'être humain fait partie de l'écosystème et donc il peut y avoir un défaut ou un excès d'intervention dans l'écosystème. Il peut y avoir trop de voitures ou pas assez de voitures. Parce que si on vient dire pas assez de voitures, ce n'est pas possible. Si, parce que pas assez de voitures, pourquoi faire des routes? On ne va pas financer des routes à voitures, des permis à voitures, on ne va même pas fabriquer des voitures s'il n'y a pas assez de voitures. Il faut que ce soit une fabrication assez de masse, en fait. Si la voiture n'est réservé qu'à quelques, ça devient des objets d'art ou des objets de gens très très riches. C'est plus un mode de vie, en fait. La voiture fabriquée en très petite quantité, ce n'est plus un mode de vie. Donc, il y a bien une question d'excès et de défaut un peu partout. Un excès de voiture, c'est facile, ça fait un embouteillage. Hein, donc, ça, on voit bien ce que c'est. Donc, ça ne sert plus à rien. Donc, on voit bien le truc. Donc, c'est quelque chose qui peut être appliqué encore aujourd'hui. Alors, je passe un petit peu vite, hein, mais il y a un certain nombre d'auteurs qui ont écrit sur la sobriété, Pierre Rabhi, Serge Latouche. Le politiste Bruno Villalba aussi, au terme d'un long programme sur les sobriétés énergétiques dans le Nord. On retrouve encore l'idée de justice, puisque la définition que donne Villalba et ses collègues, c'est une répartition équitable des ressources dans un monde fini. Donc, cette idée d'équilibre, cette idée d'équité, d'égalité, de justice entre les personnes, c'est quelque chose qui va revenir assez, assez souvent. Alors, je passe un tout petit peu, mais il y a deux critiques qui reviennent assez souvent face à la sobriété. C'est que d'abord, c'est un discours de CSP+, souvent. C'est pas un discours de classe populaire. En tout cas, souvent, on entend cette critique-là. Et ça renvoie à des utopies concrètes, mais pas à des grandes politiques. La sobriété, si c'était des grandes politiques, comme tu as dit, ça serait liberticide. Et donc, c'est des utopies concrètes. On se dit, mais comment on fait pour passer à l'échelle, en fait, hein? Donc, c'est les deux points qui reviennent assez souvent. Alors, d'abord, pour répondre au premier élément, c'est une idée de CSP+. Bon, là aussi, il y a pas mal de travaux qui montrent que non, pas du tout, ce n'est pas une idée de CSP+. Notamment le bouquin qu'on a fait avec Écologie et Politique, le dossier sur les Gilets jaunes. Mais même ce qu'a fait Paul Ariès, il y a beaucoup de travaux, Michel Verret, il y a beaucoup de travaux sur les classes populaires. Les classes populaires, effectivement, font preuve d'une certaine sobriété. Ce n'est pas la même que celle des écolos urbains. Et donc, du coup, ils ne se sentent pas très concernés par la manière qu'a ce courant politique-là de présenter la sobriété. Mais la sobriété existe bel et bien, au sens où on va essayer de... Enfin, déjà, il va y avoir, on l'a vu avec les Gilets jaunes, une certaine critique de, de, disons, de tous les modes de consommation et les modes de vie qui vont au-delà d'une certaine décence. On a parlé d'indécence, en fait. Hein. Combien sont payés les footballeurs, c'est indécent. Ça exprime une certaine conception de la sobriété, en fait. Il y a quelque chose qui est décent, au-delà de cette norme de décence, ça devient indécent, et donc on dépasse, en fait, ce qui est la sobriété. Bon. Avec tout un tas, là aussi, de critiques de l'excès. C'est excessif, d'autres personnes auraient besoin d'argent, c'est un argument qu'on retrouve assez souvent. Alors que les enfants, il y a plein de pauvres, les enfants dans les pays du Sud meurent de faim, ils vont se payer. Enfin, on retrouve très fréquemment cette critique-là dans les classes populaires. Donc il y a bien effectivement une sobriété qui est attestée depuis très longtemps, mais elle va se manifester, je dirais, dans un milieu qui est très, très industrialisé, qui n'est pas forcément très urbain, qui est périurbain. Alors on hésite à utiliser les mots pour définir, mais enfin, dans le cas des gilets jaunes, très, très dépendant de la voiture. Bon, donc c'est pas vrai que c'est dépendant, enfin que c'est une coquetterie de petits bourgeois, c'est pas vrai. C'est présent aussi dans les classes populaires. Par contre, c'est vrai qu'il y a une difficulté de jonction, très clairement, entre les différentes sortes de sobriété, différentes pratiques de sobriété. Il y a des écarts qui peuvent être relativement importants, et on voit bien que ça ne s'aligne pas entre ceux qui. Alors ceux qui parlent pas du tout de sobriété, c'est ceux qui dépensent et qui gagnent. À plein, c'est les plus riches, hein, c'est les vrais bourgeois, c'est pas les petits bourgeois, c'est les vrais bourgeois. Voilà. Donc pour les CSP, ça marche pas trop. Pour l'utopie concrète, ça marche pas trop non plus, parce que si on regarde les grandes idéologies politiques, elles ont toutes un discours sur la sobriété. Alors, ça a l'air surprenant comme ça, mais si ça marche, le conservatisme, historiquement, a toujours eu un discours sur la sobriété. Les chefs en haut, les petits en bas, et il faut pas que ça change. Donc chacun à sa place, et chacun dans la sobriété, on ne va pas contester, on ne va pas même théoriser d'ailleurs. Hein. L'ordre doit être comme naturel, sur la base du préjugé. Et chacun observe sa place avec beaucoup de sobriété. Donc, la sobriété, ce n'est pas quelque chose. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que la sobriété est souvent, enfin, assez régulièrement prise à partie comme étant un peu conservatrice ou réactionnaire ou féminine. C'est pour ça que je dis ça. Ça fait partie du débat quand même. Je pense que c'est important. Chacun à sa place. Le libéralisme aussi a un discours sur la sobriété. En fait, exactement, il y en a deux. Il y a celui qui dit que la sobriété, c'est un libre choix de vie, comme tous les autres, sur le marché. Ceux qui veulent être sobres, ils ont le droit d'être sobres. On pourrait dire, dans un langage économiste, que c'est ceux qui ont une préférence pour le futur. C'est ceux qui épargnent, en fait, les sobres. Voilà. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ceux qui épargnent pour investir, pour gagner plus. C'est la sobriété weberienne, la sobriété protestante. C'est-à-dire que les intérieurs sont sobres, c'est Max Weber dans l'éthique protestante, l'esprit du capitalisme, les intérieurs sont sobres, mais il s'agit de faire tourner le capital.
Et de gagner de l'accumulation derrière.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est même grâce à la sobriété qu'il y a de l'accumulation, puisque dans les sociétés, disons, non capitalistes ou précapitalistes, très souvent, tout est dépensé. Donc, c'est en dépensant qu'on n'accumule pas. En fait, donc c'est plutôt ce que dit Marshall Saline sur les sociétés de l'âge de pierre, c'est des sociétés qui dépensent tout et donc qui n'accumulent pas, parce que pour reproduire le capital de manière élargie, ben, il faut se priver, et c'est théorisé ça en économie, y compris en économie néoclassique. Donc, dans le marxisme, c'est la question de l'accumulation primitive. Bon, dans l'économie néoclassique, c'est la préférence pour le présent. Est-ce qu'on va dépenser l'argent qu'on a gagné ou est-ce qu'on va l'investir pour ensuite récupérer? Et l'austérité dans le libéralisme, c'est cette logique-là. Il ne faut pas dépenser maintenant, il ne faut pas payer trop de salaire parce qu'on prépare la croissance de demain, en fait. Hein. Donc, tout le discours de dire oui, mais pour distribuer l'argent, il faut déjà en avoir. C'est ce que disent les libéraux, il faut déjà en avoir. Donc, sous-entendu, il ne faut pas le dépenser, il faut d'abord l'investir. Puis en fait, on investit, puis en fait, on n'a jamais rien. C'est toujours repoussé à plus tard, mais en tout cas, il y a un discours de la sobriété qui est présent. Dans le socialisme aussi, donc c'est pour dire que tout ça, ce n'est pas des utopies concrètes, hein, la sobriété est présente dans des grandes idéologies politiques. Dans le socialisme aussi, il y a encore le régime chinois n'a plus tout à fait ce discours-là, mais pendant longtemps, le marxisme classique et les grands États socialistes, Sartre aussi, le marxisme classique, il s'agit d'atteindre un régime d'abondance, atteint par, d'abord, dans un premier temps, le capitalisme, qui permet de développer les forces productives, les moyens de production, et à la fin, grâce à la ruse de l'histoire, les vrais producteurs, les travailleurs récupèrent l'outil et le font tourner à leur propre service. C'est des thèses qui sont encore soutenues. Hein. Les accélérationnistes, par exemple, c'est la thèse qu'ils soutiennent, bon, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y a Aaron Bastani, un journaliste qui a écrit un bouquin dernièrement là, sur le communisme d'abondance, avec évidemment beaucoup de numérique. Hein. Il y a toujours beaucoup de numérique ces derniers temps dans ces versions-là. Mais voilà, donc la sobriété, ce n'est qu'un temps limité. C'est le temps où il faut souffrir un peu, le temps de l'histoire, en fait, pour arriver à la félicité qui se produit. Donc, en fait, la sobriété est quand même souvent là, en fait, beaucoup plus souvent présente dans les débats politiques, macro-politiques que ce qu'on pense. Hein.
Mais c'est une sobriété temporaire.
Bah, ou c'est une sobriété qui est subordonnée à autre chose. La seule... C'est un moment, en fait. La sobriété, c'est pas le point architectonique de ces philosophies politiques, effectivement. Alors, donc, ce qui se pose souvent avec la question de la sobriété, c'est comment, comme disait le titre d'un bouquin, comment ne plus être progressiste sans devenir réactionnaire. C'est-à-dire, comment ne plus aller dans le toujours plus, et le toujours plus, c'est la 5G, la 6G, la 7G, ce qu'on nomme communément le progrès, quelque part, hein, et qu'on voit encore à la télé ou dans les magazines. Je voyais le magazine de Futura Science, enfin, pour sauver la planète, il faut mettre du numérique partout, enfin, ce que tu disais un peu tout à l'heure, c'est ça le progrès. Donc, comment ne plus être progressiste sans devenir réactionnaire ?
Jean-Paul Bessé.
Exactement, on peut le citer, il y a quelques années, une quinzaine d'années, sur la décroissance. Hein, parce que la décroissance pose aussi ce genre de questions, évidemment, parce que la décroissance pose la question de la sobriété à une échelle macroscopique, et non plus à l'échelle simplement du petit geste. Voilà. Donc, que faut-il faire ? Alors, moi, ce que je propose dans le bouquin, c'est de dire, plutôt que d'avoir une vision historique comme ça, successive, des techniques qui succèdent, ou comme dit Latouche, sur cette voie-là, bah, soit on avance, soit on recule. Donc, en fait, on ne sort pas du débat. C'est soit on avance et on est progressiste, soit on recule et on est réactionnaire. Mais en fait, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, c'est quand même compliqué. Donc, je dis qu'il faut faire un déplacement un peu géographique. Il faut regarder les modes de vie. Et les modes de vie sont organisés de manière géographique. Pour donner un petit exemple, je trouve que le métro ou la voiture est assez spectaculaire visuellement, plus que le numérique. Quand vous prenez le métro à Paris entre 6h et 7h du matin, vous voyez bien que c'est les travailleurs manuels. Quand vous prenez le métro entre 8h et 9h, vous voyez bien que c'est les employés. C'est comme ça tous les matins, tous les jours ouvrés. Vous pouvez essayer, hein. Ça marche à tous les coups. Donc, un mode de vie, c'est quelque chose de répétitif comme ça. Alors, il faut distinguer le mode de vie du style de vie. Le mode de vie, alors vous voyez que ce n'est pas toute la population. Ça peut être une partie. Les employés, ce n'est pas toute la population. En substitut, c'est 20% à peu près de la population qui ne sont pas tous à Paris. Donc, bon. Mais un mode de vie, c'est ça. C'est quelque chose de répétitif à grande échelle. C'est les individus qui font toujours la même chose à peu près toujours au même moment, et ça a des conséquences énergétiques, matérielles, évidemment, notamment le fameux pic de consommation d'électricité en France à 7h le soir en hiver ou à 7h le matin, toujours en hiver, parce que c'est le moment où on allume le chauffage quand les gens rentrent du boulot. Donc, et c'est un grand problème de gérer ce pic de consommation. C'est lié au mode de vie, en fait. Hein. Il faut bien voir que c'est collectif, ces modes de vie. Un certain nombre de publics. Donc, mode de vie, c'est très répétitif. Style de vie, c'est les variations à l'intérieur de ce mode de vie. Donc, par exemple, moi, employé, je vais à 8h. Enfin, je vais plus tôt, mais c'est pas grave. Ah, voilà, c'est un bon cas. C'est un bon cas. Je pars plus tôt alors que je suis un employé. Donc, je me retrouve avec les travailleurs manuels. Oui, mais ça, c'est un cas un peu particulier, en fait, qui ne va pas changer vraiment les grandes masses statistiques. C'est les variations individuelles, bon, bah, très bien, hein, qui sont, on va dire, non militantes, sont juste de l'ordre du choix individuel et des interstices dans le système pour les choix individuels, mais ça ne change pas quand même, ça ne change pas les statistiques. Donc, les grandes masses restent les mêmes, mais il y a un espace de variation individuelle. Alors, pourquoi c'est important ? C'est que on s'aperçoit que c'est la question de la liberté derrière, c'est liberticide ou pas liberticide, ben, elle est en train de se construire un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on veut dire liberté ? Donc, on a mode de vie, on a style de vie, on a genre de vie. Les genres de vie, c'est des modes de vie naissants, en quelque sorte, qui sont portés par des individus ou des organisations, on va dire, militantes, qui peuvent très bien être des entreprises. Donc, par exemple, dans le cas du numérique, quand vous regardez en 2007, hein, j'ai regardé hein, les différents documents qui ont été produits autour, disons, autour de la politique du numérique, disons de 98 jusqu'à 2015 ou 2020, on va dire. C'est-à-dire que c'est, l'équipement de la société est à peu près stabilisé, tout le monde a un smartphone et tout. En 2007, quand l'iPhone sort, en gros, il n'y a que les fans de Apple qui trouvent que c'est génial. Parce qu'objectivement, ça ne sert à rien. Objectivement, l'appareil ne sert à rien. Les spécialistes du Consumer Electronics Show à Las Vegas, quand ils voient l'appareil, ils se disent à quoi ça sert ce truc. Donc, les gens sont très, très bien informés. Hein. Et en fait, pour une bonne raison, c'est qu'à ce moment-là, quand ce qu'on appelait smartphone, c'était en fait un téléphone qui envoyait des emails. Pas plus. C'est tout. Ça ne faisait que ça. En fait, c'est bien connecté à Internet, mais ça ne faisait qu'envoyer des emails. Et ce que fait le smartphone, le iPhone, qui est totalement différent de tous les autres, c'est qu'il a des applis. Or, une appli, ce n'est utile que si les autres en ont. Vous voyez ? C'est comme le téléphone. C'est bien d'avoir un téléphone, mais pour pouvoir téléphoner avec quelqu'un, il faut que quelqu'un d'autre ait un téléphone, en fait. Hein. Et donc, c'est ce qu'on appelle un bien de réseau. Donc, un bien de réseau, il est confronté à ce problème de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire que tout seul, il n'a pas d'intérêt. Et plus les autres en ont, plus il est utile et plus il est intéressant, ce qui va contrairement, enfin, totalement à l'envers de ce qu'on pense d'habitude, qui est que plus on diffuse un bien, plus quelque part, ça va en priver les autres. Là, c'est l'inverse. Plus on diffuse et plus c'est utile, en fait. Hein. Jusqu'à devenir une situation sociotechnique que l'on appelle le lock-in, c'est-à-dire une situation sociotechnique bloquée, où tout le monde est équipé et le moyen, en fait, est incontournable, notamment pour ceux qui sont minoritaires et qui essaient encore de résister. Parce que tous les autres sont dessus, finalement. Hein. Donc, le smartphone, à ce moment-là, c'est un objet qui est relativement inutile, assez rapidement, et le CREDOC, qui est le centre disons, d'observation des conditions de vie françaises, 2-3 ans après, prend acte que le smartphone est en train de... Enfin, il est déjà à 30% d'équipement. Mais avant, il ne le repère même pas. Il n'y a pas le mot, il n'y a pas le concept. Il ne le repère pas. Ça n'existe pas. Alors qu'il voit venir l'ordinateur multimédia en se plantant un petit peu, parce que la bulle d'Internet, en 2002, en fait, l'ordinateur multimédia, ça n'a pas fonctionné, ou pas comme les gens l'attendaient. Donc, c'est ce qui a fait que la bourse s'est effondrée. Voilà. Alors, c'est pour montrer que voilà, les modes de vie s'élancent soit par, ça peut être des activistes, des militants, des assos, Alternativa, ou les mouvements des biocop, ou voilà, essayer de gagner des gens qui vont régulièrement à la biocop. Donc, du coup, on peut fermer des réseaux avec relier des paysans, des fabricants de café équitables avec des réseaux commerciaux. Bon, il faut que ça tourne de manière régulière. Si c'est pas one shot, donc il faut créer des modes de vie collectifs. Sinon, ça marche pas. Ben, les entreprises font la même chose en fait. Les entreprises font la même chose, mais pour pousser à la consommation. Plus spécifiquement, des populations solvables. Pas que. Parce que quand on regarde l'équipement en numérique pour ce qui est de la France, et je pense que c'est un peu pareil dans d'autres pays, les classes populaires adoptent le GSM aussi vite que les CSP+, mais avec une grande différence, c'est que les classes populaires abandonnent le fixe, elles remplacent le fixe par le GSM. Le GSM, c'est un moyen de faire des économies, alors que les CSP+, cumulent. Elles ont le fixe et le GSM. Puis après, elles ont le fixe, le GSM et l'ordinateur. Et comme les classes populaires ne peuvent pas s'acheter l'ordinateur, elles vont acheter le smartphone qui remplace le GSM et le fixe. Donc c'est et l'ordinateur. Ça permet, voilà, c'est des motivations économiques qui essayent de suivre en fait la norme de consommation, la norme décente de consommation, c'est-à-dire ce que tout le monde doit avoir dans une société pour vivre dignement, en fait. Et aujourd'hui, pour vivre dignement, bah, il faut Internet. Voilà. Et donc derrière, bah, faut suivre, faut essayer d'acquérir ces biens qui permettent de vivre comme tout le monde. Et malgré la sobriété dont on peut faire preuve, y a un en dessous, en dessous duquel on n'est pas dans la sobriété, on est dans la pauvreté. Ce n'est pas pareil. Donc, sobriété, pauvreté, voilà, c'est deux choses bien différentes. Alors, donc voilà, ça permet déjà d'introduire la question des modes de vie, de comment on peut éventuellement les changer. Vous voyez donc que l'abondance ici, maintenant, étant organisée géographiquement, elle prend un sens très relatif. On n'est plus dans... les forces productives qui vont abolir la rareté. Dans une vision géographique, la rareté, elle est très relative. Est-ce que la rareté, c'est quelque chose qui manque? Mais là, on a plutôt trop de numérique. Donc, il peut y avoir du trop dans l'espace. Alors que dans l'histoire, quasiment, il ne peut pas y avoir de trop. On va aller toujours plus vite, ouais, bah, il n'y a pas de limite. Ben si, géographiquement, si. En fait, on s'aperçoit qu'aller toujours plus vite, ce n'est pas possible. Il faut faire des voies. Il suffit de regarder pour le TGV. Hein, le film des Tuches, c'est un bon exemple. La promesse du président Tuche, c'est une gare de TGV dans tous les petits villages de France. Ben, on voit bien qu'avec ça, on ne va pas aller très vite avec le TGV. Donc, ah oui, organisation géographique, en fait, la vitesse a un effet structurant sur le territoire. Alors que dans l'absolu, si on se dit aller toujours plus vite, on ne voit pas tous ces effets négatifs et qui, en fait, sont des effets de déséquilibre. Donc, on retrouve la question de la sobriété. La vitesse va avoir tendance à concentrer les activités dans les métropoles. C'est un effet qui est connu depuis 150 ans, en fait. Hein. Donc, on va réinterpréter, en fait, le progrès en termes géographiques. Et en termes géographiques, eh bien, il va être plus facile à critiquer. C'est-à-dire qu'on n'est pas... On n'est pas réactionnaire, on dit, regardez, il y a quelques problèmes quand même. Donc, il s'agirait non pas d'avoir une espèce de foi dans la technologie, mais de montrer que, un, cette technologie, ben, ça crée des data centers. Là, ils sont en train de s'apercevoir qu'en France, on n'a pas assez de data centers. Il faut vite faire des data centers parce que maintenant qu'on lance tout un tas d'applis, ben, derrière, il faut de la puissance de calcul. Et, ben, oui, mais c'est de la matérialité, ça consomme de l'énergie. Il faut les mettre quelque part. Alors, le grand problème, c'est qu'ils n'ont pas de territoire. Tant mieux, pourvu que ça dure. Mais, si on reterritorialise, on redescend de ce discours sur le progrès qui est hors sol, en fait, vers quelque chose qui est beaucoup plus concret et qui peut s'ancrer dans des modes de vie et qui peut donc aussi se discuter. Alors, on voit, je commence à être un peu trop long, hein. On voit que la sobriété, ça a à voir avec la question de l'équilibre, l'équilibre entre les classes sociales, pourquoi eux, ils prennent tout et pourquoi ils laissent rien aux autres, pourquoi est-ce que certains vont faire monter la norme de consommation en ayant le dernier truc à la mode et tout et en contraignant les autres à essayer de suivre quelque part. Et pourquoi, en disant tout ça, on s'aperçoit que les modes de vie et la consommation, c'est profondément social et que les solutions pour les changer ne peuvent être que par la socialisation. Donc, par exemple, cas typique, tous les parents qui s'arrachent les cheveux à la maison avec leurs enfants qui sont devant les écrans, la seule manière, c'est de socialiser à l'école. Entre parents, ce n'est peut-être pas la bonne échelle, mais à l'école. Donc, c'est là qu'on voit que la socialisation, elle peut se faire à différentes échelles. Et qu'il y a différents niveaux entre le petit geste et la révolution. En fait, il y a différentes étapes. D'un point de vue géographique, il faut voir à quel niveau le problème se pose et comment on peut le socialiser à des échelles un peu croissantes. Parce que finalement, le téléphone, je ne sais pas s'il a été interdit finalement dans les collèges, mais il a été interdit en Chine, notamment à certains moments. Et bon, une loi peut être mise en place à partir du moment où c'est suffisamment socialisé et qu'il y a besoin d'une action à ce niveau-là. Donc, on voit que dans cette vision-là, les riches sont un problème, ce qui pose un problème d'équité. Ils consomment tout et puis ils exhibent l'indécence absolue. Hein, donc, c'est évidemment un problème. Donc, dans le libéralisme, ce n'est pas un problème puisque pour le président actuel, il faut qu'on soit tous millionnaires. Dans la pensée de la sobriété, évidemment, c'est un gros problème. Donc, il y a la question de l'équité qui se pose et c'est pas une utopie. Alors moi, je finis par ma mesure, puis après, il y aura certainement des questions. Donc, je propose une mesure, juste en fait. Oui.
Non, on peut dire, dans la conclusion de l'ouvrage,
ouais,
tu as quand même une série de propositions, d'esquisses de programmes pour mettre en place plus de sobriété numérique.
Oui, oui, qui est en partie pris sur…
C'est pas seulement un constat, tu ne laisses pas les gens sur leur faim. Il y a conclusion avec…
comme j'ai beaucoup participé à la feuille de route du Conseil national du numérique sur le sujet et qu'en fin de compte, ils n'ont pas repris tant que ça de choses que de ce que j'ai mis dedans. Enfin, j'ai suivi tout ça de très près. Et je pense que la mesure que je pousse et dont on m'a dit aujourd'hui au Parlement européen, on m'a confirmé que c'est tout à fait faisable et qu'il n'y a pas de problème, il suffit de la voter. C'est de dire que chaque entreprise, donc par exemple, moi j'ai un Fairphone là, chaque entreprise qui met un objet sur le marché met cet objet avec l'objectif de changer les modes de vie. C'est l'objectif, c'est de changer les modes de vie. Parce que s'ils ne changent pas les modes de vie, les gens ne vont pas acheter de produits. Donc ils ne peuvent pas nous dire que c'est pour changer les modes de vie. D'ailleurs, pour vendre des produits, on a des cas d'usage, toujours. J'ai fait le téléphone comme ci, comme ça, parce que je pense que ça répond à ça. Besoin, un fameux besoin. Voilà. Donc, l'idée, ça serait d'obliger les fabricants, voire même ceux qui font les lois, à calculer la trajectoire socio-écolo-technique qu'ils veulent provoquer dans la société. Mais avant qu'ils essayent de provoquer, pas après, avant, une espèce d'étude d'impact, comme a fait un peu le Shift Project, mais à l'échelle d'un produit, à plus petite échelle, ça serait obligatoire, non seulement il faudrait qu'ils le fassent, ça serait obligatoire, et il faudrait qu'ils le rendent public avant commercialisation du produit, de telle manière à ce que le débat public ait lieu avant le lock-in. Parce que le problème, c'est qu'une fois que tout le monde, évidemment, est dépendant du téléphone portable, tout le monde dit, ouais, mais enfin, c'est peut-être bien gentil que ça doit être votre sobriété, mais j'en ai besoin. Ben oui, oui. Donc, au moins, pour ce dont on ne dépend pas encore, et dans le domaine du numérique, faut voir qu'il y a des milliers de milliards peut-être pas des milliers de milliards quand même, mais des milliers de milliards, parce que Tesla, lui, tout seul, c'est 1000 milliards, donc on peut aller, les milliers de milliards, qui sont prêts à être investis dans des besoins de personnes là, hein, parce que quand on regarde en Roumanie, c'est un pays qui est assez bien fibré, la raison pour laquelle les gens n'utilisent pas trop la fibre, la raison numéro un, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. C'est la raison numéro un. Donc, s'ils n'en ont pas besoin, pourquoi est-ce qu'il faut les forcer ? Donc, les liberticides sont plutôt du côté de ceux qui, subrepticement, font en sorte qu'on ait besoin de produits sans qu'on ait à aucun moment capacité d'anticiper les conséquences de tout ça, de ces soi-disant petits gestes. Ce n'est pas des petits gestes, c'est l'instauration de modes de vie, en réalité. Et c'est de ça dont il faut reprendre le contrôle. En tout cas, c'est mon idée.
On a une réaction tout de suite. Je pose une question, mais c'est.
Tout de suite, la 5G, c'est complètement ça.
C'était la question aussi.
Bah, c'est typiquement le truc dont on n'a pas besoin et qu'on va nous appeler.
Oui, parce que.
Comment ça peut être accepté par le Parlement européen, cette étude préalable sur les besoins la 5G, sachant que.
C'est un bon voilà, force.
C'est soit on est à niche, soit on est 5G. Donc, le débat semble être totalement franchi.
Et c'est pas qu'un problème de sobriété.
Oui, oui, pour le moment, en fait, c'est la 5G, c'est effectivement un bon cas, parce que quand on regarde les justifications de la 5G, en fait, toutes reposent sur des cas d'usage hypothétiques, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de la télémédecine, on va avoir besoin de la voiture autonome, on va avoir besoin de ceci, de cela. Et donc, pour avoir tout ça dont on n'a absolument pas besoin, eh bien, il faut faire la 5G tout de suite. C'est exactement ce cas-là. Les cas d'usage n'existent qu'à l'état, mais plus qu'embryonnaire pour le moment. La télémédecine, bon, en gros, ça ne marche pas trop. La voiture autonome, ça ne marche pas. Donc, il faut voir dans quoi on met le doigt. On pourrait dire pourquoi Tesla est valorisé à 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire que la valorisation en bourse de Tesla est plus importante que celle de tous les autres constructeurs automobiles réunis. Pourtant, quand on regarde par la fenêtre, on ne voit pas beaucoup de Tesla. Et la France n'est pas un cas isolé. Hein. Tesla ne vend pas beaucoup de voitures. Comment ça se fait ? Ben, c'est parce qu'ils pensent que Tesla, derrière, va, en gros, faire main basse sur le parc automobile mondial ou pas loin. Alors, comment ? Ben, en remplaçant les voitures existantes par une espèce de système de robotaxi, des voitures qui vont se déplacer toutes seules, qui vont aller d'un endroit à un autre toutes seules, selon les besoins des individus et qui vont être évidemment pilotés plus ou moins centralement par le savoir-faire numérique de Tesla que Tesla serait plus ou moins seul à posséder. Tesla veut plateformiser en fait la circulation automobile. Il y aura, en fait, quelque part, il n'y aura plus d'automobile, il y aura une espèce de métro modulaire qui sera coordonné de manière centrale, non pas par la RATP, mais par Elon Musk. Donc, c'est ça en fait qui est derrière. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut ? Alors, déjà, est-ce que c'est bon pour l'écologie ? IT for Green, IT for Green, c'est ça. Est-ce que c'est bon pour l'écologie ? Ben, il y a un rapport, la réponse est déjà connue. Elle est connue dans le rapport qu'on a fait en 2009, on l'a donné déjà. Et il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti il y a relativement peu de temps, qui dit, mais ils disent toujours la même chose. Ils disent, cette technique peut éventuellement servir à réduire les gaz à effet de serre, tout dépend des politiques qui seront menées en matière de transport, de l'infrastructure, est-ce que les maisons vont être plus ou moins éloignées des autres, est-ce que l'urbanisme va rester ce qu'il est, est-ce qu'il va encore s'étendre davantage, et bah, suivant toutes ces caractéristiques, la voiture autonome va permettre de consommer plus ou de consommer moins. Donc en fait, la voiture autonome n'a pas d'intérêt pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en tant que telle. Ce n'est pas la variable principale, c'est une variable secondaire. dans le problème. Et pourtant, c'est vendu comme la variable principale. Et ça revient tout le temps, mais c'est quand même le débat revient tout le temps, alors que les réponses sont déjà connues depuis longtemps. Donc, dire, bon, oui, c'est vrai, c'est un oubli sélectif pour essayer de vendre toujours la même sauce qui n'a pas de fondement. Mais bon, je pense que c'est quand même utile de se rappeler que ces débats-là sont anciens, que les réponses sont en grande partie connues de longue date, et que ces innovations technologiques, donc, on n'est pas réactionnaire quand on explique que cette technique, elle ne fait pas du tout ce qu'elle prétend faire. Voilà. Il faut juste arrêter de croire dans un progrès qui n'en est pas un. C'est plutôt ça, en fait. Hein. Et ça nécessite, vous voyez, de sortir une espèce d'imaginaire comme ça, qui est hors sol, avec des promesses, une économie de la promesse, qui est d'ailleurs, c'est pas impossible qu'il y ait un gros crack financier, boursier, parce que tout cet argent qui part dans le numérique ne va pas déboucher sur quelque chose, et ça va s'effondrer un peu comme en 2002 avec les portails qui ont AOL, vous vous rappelez, AOL qui a racheté Time Warner, AOL en 2015 a coulé, AOL a déposé le bilan. Donc c'est voilà, tout ça repose sur une économie de la promesse qui est assez délirante et qui est reprise par une partie de la presse et des soi-disant scientifiques. C'est ça aussi qui est remarquable, c'est que les gens des sciences qui devraient normalement nous renseigner sur les faits, ben, ils sont dans la science-fiction en fait en grande partie, et ils nous racontent des choses qui ne sont pas avérées, quoi.
Alors, on a des remarques en ligne de gens qui nous disent qu'il faut remarquer notamment sur la 5G que ce qui justifie la 5G, c'est tout l'univers d'objets connectés qui vont être autour. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous la vend. Donc, effectivement, on va être dans pas simplement la technologie en tant que telle, c'est le.
Oui, alors la 5G, c'est en fait plusieurs gammes d'ondes. C'est un truc très compliqué, en fait, la 5G. Hein. C'est plein de gammes d'ondes, c'est des antennes assez compliquées. Bon. Et notamment qui rendent ce service-là avec une gamme d'ondes bien, bien spécifique. Et effectivement, ça a été, là aussi, il y a eu des calculs de fait, des calculs de point de table, ça suffit, c'est pas la peine de mener des études qui coûtent des millions. Hein. On multiplie le nombre d'objets par la consommation moyenne, le nombre d'objets hypothétiques par la consommation moyenne, c'est facile à faire, vraiment.
Mais je crois qu'on revient à ce que tu nous disais au début, en fait. Parce que le principe de la 5G, c'est qu'on nous le vend en nous disant, sur un principe d'efficacité,
ouais.
En disant le transfert de données ce sera plus économe. En énergie, en émissions de CO2 qu'avec les anciennes générations, la 3G ou la 4G.
Oui.
Mais comme on est sur une technologie sur laquelle on va passer beaucoup plus de données, en fait, on est sur vraiment un truc typique d'effet rebond où l'efficacité va...
Effet rebond, en fait, parce qu'on a l'impression que on essaye de bien faire et de sauver la planète, et puis, paf, il y a un effet rebond complètement imprévisible. Mais non, il est... On sait depuis le début que l'objectif, c'est de passer des quantités de données très supérieures. Ce n'est pas un effet rebond. C'est un objectif écrit noir sur blanc. Donc, il est prévisible qu'à la fin, ça consommera plus d'énergie. D'ailleurs, les spécialistes le disent. Ceux qui tirent les câbles et qui installent les antennes, et ils le disent. Ils disent, bien sûr, c'est par unité d'information qui va transiter, ça va consommer un peu moins. C'est difficile à calculer parce qu'il y a plein de pièces techniques. Et donc, voilà. Mais l'objectif, c'est de passer beaucoup plus de données. Ça n'a jamais été simplement de baisser la consommation d'énergie. Ça serait peut-être de la sobriété. Mais là, ça n'en est pas. Donc, on prend un bout du problème qu'on met en avant en occultant un autre bout. C'est ça, ce n'est pas un effet rebond, ça.
Mais on sait du coup qu'on prend une mesure qui va à l'inverse d'une logique de sobriété.
Ah bah oui. J'ai fait une présentation de ce bouquin à EDF il y a 6 mois. J'ai expliqué en gros à quoi ça sert la 5G. Ils ont bien compris parce que derrière, il faut mettre l'électricité. Ils ont très bien compris.
Ouais.
Il n'a pas fallu expliquer longtemps. Hein.
Oui, parce qu'une antenne 5G, ça va consommer.
Bah oui. Il y a plus de data. On en revient toujours là. Donc, ça consommera au moins autant à la fin, sinon plus.
On a une question sur l'impact. Quelqu'un qui demande quel sont l'impact des petits gestes individuels. Est-ce que c'est important de vider sa boîte mail
Alors, en termes de le mail, ça n'a presque pas d'impact. Hein, donc, bon, non, enfin, nettoyer boîte mail, pas vraiment.
Ou stocker sur le cloud.
Non, en gros, le marqueur, hein, c'est plus les fichiers sont importants. Ben, il y a trois opérations. Il y a stocker, transmettre et processer. C'est faire tourner le logiciel, en fait. Hein. Il y a trois opérations de base. Stocker, donc on est sur un disque dur, ça ne bouge plus, mais il faut savoir quand même que le disque dur, bah, il faut quand même alimenter en énergie de temps en temps, donc ça consomme. Transmettre, bah, évidemment, ça consomme. Et processer, évidemment, ça consomme. Donc plus les fichiers sont gros, plus les fichiers qu'on transmet sont gros, plus ça consomme. Donc c'est pour ça que la vidéo est pointée du doigt. Ce n'est pas la vidéo en tant que telle. C'est qu'une vidéo, c'est quoi? Là, quand on se voit sur l'écran, et ben, c'est un logiciel qui va faire, c'est bête, hein, pourtant, hein, s'allumer et s'éteindre les pixels. C'est tout. Si je bouge, là, hop, il y a des pixels qui s'allument et qui s'éteignent sur l'écran. Si c'est 50 fois par seconde, le rafraîchissement, ça veut dire que 50 fois par seconde, et c'est en général enfin, la fréquence la plus courante, 50 fois par seconde, il va y avoir le calcul de l'ensemble de l'écran. Si l'écran est très grand, ben, ça fait un gros fichier. C'est simple. Hein. Un fichier vidéo tel qu'on pouvait... disons, le récupérer de manière semi-légale au début d'Internet, c'était 700 mégas. Un fichier 4K, c'est plutôt 100 gigas. Et c'est loin d'être le pire, la 4K. Et le téléphone, le dernier Samsung, c'est de la 8K. Donc, en fait, ce qui est super bien avec le téléphone Samsung, c'est qu'on peut prendre une photo du Trocadéro sur la tour Eiffel et zoomer sur la photo et voir mamie en haut de la tour Eiffel. Voilà à quoi ça sert, en fait. Parce que la résolution, elle est tellement grande, il y a tellement de pixels, en fait, dans l'image, et l'image, évidemment, elle est tellement lourde qu'il y a un niveau de détail incroyable. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? C'est ça, la sobriété. Est-ce qu'on a besoin de ça? Par contre, quand ça transite sur les réseaux, ça, c'est sûr que ça se sent bien, ce genre de choses. Donc, c'est calculable. Vous vendez un téléphone 8K, c'est pour prendre des photos, je crois, non? C'est peut-être pour vous en servir. On regarde le transit moyen des photos sur les réseaux sociaux. On peut calculer en gros de combien ça va faire de consommer d'énergie en plus. Et donc, on commence à problématiser un mode de vie. Et ce n'est pas simplement le petit geste. On en parle dans l'espace public et à partir de là, on peut se déterminer. Donc, c'est la réponse à la question. Est-ce qu'il faut... Enfin, sur quoi il faut agir? Il faut agir sur ce qui a un certain effet, donc la vidéo, c'est un certain effet, et puis ce qui, disons, favorise des réseaux plus sobres. Donc, par exemple, éviter les GAFAM autant que possible, utiliser les outils Framasoft, Linux, limiter les mises à jour. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Pour freiner, en fait, à l'échelle individuelle, ça reste individuel, mais l'idée, c'est d'entraîner, de renforcer les petites initiatives qui existent ici ou là, comme Framasoft ou Ubuntu, qui permettent de finir par faire contrepoids aux mastodontes contre lesquels même le Parlement européen, on en a parlé tout à l'heure, là j'y étais, et ils disent oui, non, mais on peut légiférer, hein, ils ne sont pas sur notre territoire. Donc, de toute façon, on peut légiférer sur telle ou telle application, mais elle n'est pas en Europe. Donc, la loi va s'appliquer en Europe et ça ne fera rien. Donc, en attendant ça...
Ce qui se comprend bien, le roi de la sobriété, malgré Trump, c'est Twitter. Parce que 140 caractères que du texte, c'est fabuleux, hein, par rapport à ça.
Ouais, d'une certaine manière. Après, il faut voir la quantité de tweets.
Bien sûr, c'est que du texte. La différence quand même entre un fichier d'un film
non, mais je pense que
140 caractères, ça doit être 1 à 100 000 ou 1 million.
Je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire que ce qui est de l'ordre du texte, ça ne devrait pas poser de problème. Parce que ce qui est de l'ordre du texte, on devrait avoir des logiciels assez légers pour traiter du texte. Le problème, c'est la vidéo, effectivement. Et donc là, faire attention aux résolutions et toutes ces choses-là. Mais surtout, le gros problème, ce n'est pas ça. C'est voiture autonome, intelligence artificielle, c'est tout ce qui n'est pas arrivé encore. Parce que comme dit le rapport de l'OCDE, le premier rapport de la CNUSED sur la numérisation de l'économie, il date de 2019 seulement. Parce que c'était un phénomène assez compliqué à comprendre. Et ils disent bien, nous n'en sommes qu'au début. Comment on est passé de 2 à 4%? Ben à cause de toutes ces applis qui prolifèrent, qui calculent, qui machin, qui... Voilà, c'est plutôt ça le problème. Donc, lutter contre la numérisation galopante du quotidien, ça me paraît être assez urgent.
On a une question de Jean-Pierre sur Internet qui nous demande, alors c'est une question par rapport aux chambres du futur ou aux conférences de citoyens, qui sont des choses qui sont pas mal promues par les écologistes pour essayer de trouver des solutions à la crise climatique. Il demande est-ce que ce type d'organe serait capable justement d'anticiper ces problèmes de numérisation de la société, d'extension du domaine du numérique et du poids du numérique sur la planète. Est-ce que on peut compter sur type de mécanisme institutionnel pour anticiper type d'évolution et leur trouver justement des solutions de sobriété.
La conférence de citoyens sur le climat avait voté pour un moratoire sur la 5G d'ailleurs. Mmh. Hein, donc, et en fait, c'est oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que 15 citoyens sur 70 millions d'habitants, ça ne fait jamais quand même que 15 citoyens sur 70 millions d'habitants. Et donc, ce n'est pas, la balle en argent qui va tuer le vampire, comme on dit. Donc, c'est un dispositif parmi d'autres, mais qui avec tout un tas d'autres dispositifs dont l'objectif est de contrer les modes de vie néfastes pour faire de la place aux modes de vie plus vertueux, plus sobres. Mais il n'y a pas, moi, je ne pense pas, de la même manière que je disais tout à l'heure, petit geste et révolution, c'est plus complémentaire en fait que des alternatives. Et on a fait un colloque sur les révolutions avec une collègue philosophe. Ça s'appelait « Comment réussir une révolution ?» Point d'interrogation quand même. Les révolutions ratent assez régulièrement parce que ceux qui prennent le pouvoir, qui sont des minorités, eh bien, vont beaucoup trop contre les habitudes d'une partie de la population, des modes de vie de la majorité. Et les populations, au lieu d'être libérées, se retournent contre les soi-disant libérateurs, en fait. Donc, cette dialectique des minorités et des majorités, elle se joue à tous les niveaux. Donc, les 15 citoyens, c'est une minorité qui exprime de manière éclairée, contrairement à tous les autres, ou beaucoup d'autres, mais beaucoup plus éclairée, donc un avis beaucoup plus éclairé, qui a une légitimité de ce point de vue-là. Ils n'ont pas d'intérêt en histoire et tout. Et donc, c'est un contrôle, mais informé. Pour autant, pour que ça redescende, c'est pour ça que je propose cette mesure-là. Il faut que ça redescende dans le débat public, qu'on en discute de la même manière qu'on discute en ce moment là, pour savoir si c'est une bonne affaire de racheter les turbines d'Alstom ou pas. Voilà, ça, c'est, de la même manière que sur BFM, en ce moment, on discute pour savoir si c'est grave, si Balkany vont en prison ou pas. C'est passionnant. Hein. On se demande pourquoi tous les autres qui vont en prison n'ont pas le droit au plein feu de BFM. Les pauvres, mais eux aussi font des dépressions quand ils vont en prison. Vous croyez quoi ? Il n'y a pas que Balkany. Hein.
Alors, difficile quand même de faire bouger une société où il y a 2 milliards et demi d'individus, enfin, d'humains, qui jouent aux jeux vidéo. J'ai entendu ce chiffre-là, c'était carrément pas par terre. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement un humain sur deux. Qui est accro au jeu. Donc, comment est-ce que cette révolution peut... Tu disais, effectivement, il n'y a pas de révolution possible sans réaction des personnes qui vont perdre leur mode de vie. Et là, le jeu numérique, apparemment, c'est un mode de vie. Là, on est vraiment dans une impasse. Non,
on est dans un truc émergent qui devient très vite problématique, hein, avec le e-sport, les compétitions, et ça devient effectivement, ça devient vraiment un problème.
Et alors, c'est pas une stratégie, parce que derrière ça, s'il n'y a pas une stratégie de, enfin, je vais pas être complotiste a priori, mais
c'est une stratégie de vendre de vendre des univers nouveaux, d'expériences nouvelles. Qui attire assez facilement les jeunes. Oui, alors 2,5 milliards, mais l'objectif d'Apple, c'est d'arriver à 7 milliards, et l'objectif de Microsoft aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même regarder le futur aussi, de ce qu'il ne faut pas faire. Et effectivement, dans les courbes, on pourrait toujours critiquer la manière dont c'est catégorisé, hein, mais Cisco, qui produit des rapports annuels sur le transit de data, a dit que le jeu, c'est le pôle qui progresse le plus vite de tous les trafics. Alors, parce que on arrive très vite à des consommations très importantes dans le jeu. Ce n'est pas forcément le cas. Hein. Un petit jeu sur Nintendo ça consomme 15 watts, c'est pas grand-chose. Hein. Et surtout, les Nintendo, elles consomment relativement peu. Mais les jeux en ligne, derrière, ça se passe surtout dans les data centers, en fait. Le terminal, ben, c'est un terminal, comme il reçoit et il envoie, mais en fait, il calcule rien ou pas grand-chose. C'est tout calculé dans le cloud, dans le data center. Et ça peut être très, très important. Mais ça a été déjà… c'est pour ça que les métavers proposés par Facebook, on peut déjà dire que c'est une catastrophe. On peut déjà le dire tout de suite. Créer un besoin de monde virtuel à base de persistant, qui va consommer évidemment beaucoup d'énergie. Vous imaginez ce qu'on est en train de faire là, on pourrait le faire entièrement en virtuel sur un métavers, l'équivalent de Second Life qui a été inventé dans les années 2003-2004. Il y avait déjà quelqu'un qui avait calculé à ce moment-là qu'un avatar sur Second Life, ça consommait plus d'électricité qu'un Brésilien. Déjà à ce moment-là. Alors, entre les deux, maintenant, ça consomme beaucoup moins parce qu'avec l'efficacité énergétique. OK. Sauf que sur le métavers de Facebook, il y aura un peu plus de monde que sur Second Life, d'abord, parce que c'est leur but. Et deuxièmement, la résolution et l'ampleur de l'univers, l'extension territoriale de l'univers dans Second Life, il ne va pas être le même que celui du métavers. C'est pareil. Si on regarde la précision, la résolution que j'ai à l'œil, vous voyez, après, on peut prendre une loupe, puis après, on peut prendre un microscope, puis après, on peut prendre un microscope électronique, puis après, on peut… Ça vous donne l'idée de la résolution qu'on peut mettre éventuellement dans le métavers, si dans le métavers, on veut aussi pouvoir utiliser des microscopes électroniques. Ça devient délirant. Donc ça, c'est pour moi, c'est beaucoup plus grave que monsieur et madame tout le monde qui regarde, en ce moment, on dit ça, les chatons sur… regarde ses chatons sur son smartphone, quoi. Oui, bien sûr qu'il faut y réfléchir, mais c'est pas l'enjeu. C'est pas vraiment l'enjeu du jour. Il faut en parler, mais il y a beaucoup plus gros. Il suffit de regarder où va l'argent, en fait. Alors, c'est pas sûr que l'argent y arrive. Hein. Mais quand on a un mauvais produit, si on a un milliard pour convaincre les gens que c'est un bon produit, c'est plus facile que quand on a un mauvais produit et qu'on n'a pas d'argent. C'est juste ce que je dis.
Je rebondis parce que tu parles d'argent et donc on a une question sur les bitcoins et la blockchain et ce que ça justement ce que ça veut dire ce que ça veut dire en termes de croissance de données et d'empreintes.
Alors la blockchain, c'est simple. En fait, il y a deux concepts derrière la blockchain, mais celui qui est le pire, c'est la preuve de travail et c'est celui qui est le plus solide. Pourquoi la blockchain c'est fiable? Parce que il s'agit pour fiabiliser. De faire des calculs qui sont toujours plus complexes. Et ce qui fait la fiabilité de la blockchain, c'est qu'il vous faut une puissance informatique toujours plus grande pour casser la blockchain, en fait. À chaque opération, le truc il va se renforcer en faisant des calculs encore plus complexes. Et donc, si on ne peut pas le violer, c'est parce qu'on n'a pas de machine assez puissante. Le commun des mortels n'a pas de machine assez puissante. Donc, ça peut être cassé, mais pas que par des très grosses machines. Donc, forcément, ça consomme de l'énergie. Il n'y a pas de miracle. Et alors, je ne sais plus où en étaient les Il y a un site qui mesure la consommation du Bitcoin en temps réel. C'est déjà de l'ordre de grandeur d'un pays, d'un petit pays. Le Bitcoin à lui tout seul. Alors que le Bitcoin, pour l'instant, ne profite qu'à quelques individus. Parce que les propriétaires des Bitcoins, en fait, sont très peu nombreux. La propriété Bitcoin est très concentrée. Bon, la Chine a fait un bon truc, ils ont interdit le minage de Bitcoin. Voilà. Le Bitcoin est interdit en Chine. Après, il y a d'autres monnaies qui sont un peu moins, qui ne sont pas sur la preuve de travail, qui sont sur un autre système et qui est un peu moins fiable, mais qui est quand même fiable. Pour le commun des mortels, c'est toujours pareil. Mais oui, ça va devenir un problème. Disons que organiser la fiabilité autour de la capacité à résister à un décodage, en gros, c'est ça. Hein. Calcul est très compliqué, tellement compliqué qu'il ne peut pas être décodé. En fait, c'est ça l'idée. Ben, ça finit par consommer beaucoup d'énergie. Après, on pourrait parler d'ordinateur quantique. Hein. Je ne vais pas parler d'ordinateur quantique. Ça existe, un ordinateur quantique. Hein. Ça existe, hein, mais ça ne ressemble aucunement aux ordinateurs que vous connaissez. C'est-à-dire que là, l'ordinateur, pour le coup, ça n'a rien à voir avec la machine de 1945. Hein. Je disais tout à l'heure que l'ordinateur qu'on a, celui-là, c'est le même principe que la machine de 1945, mais ce n'est pas le cas de l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, lui, il fonctionne avec, disons, des états atomiques. Parce que là, là, dans les semi-conducteurs, c'est quand même de l'électricité qui circule.
On n'est plus sur le 0,1, 0,1. Ce
n'est pas le 0,1, ce n'est pas le 0 et le 1. Là-dedans, c'est 0,1, 0,1, 0,1. Et quand on fait passer un 0 en 1, lui-même fait passer un autre truc, qui fait passer un autre truc, qui fait passer un autre truc. Donc, c'est une espèce de machine itérative comme ça, qui par opération finit par faire tous les calculs du monde, moyennant qu'on arrive à ramener ces calculs à des algorithmes, c'est-à-dire des suites de calculs. Il faut que ce soit séquentiel absolument. Sinon, ça ne marche pas. L'ordinateur quantique, c'est un peu comme une photo. Ça prend une forme d'un coup, en fait. Donc, ça veut dire que, un, bon, ces machines, pour le moment, ça fonctionne à une température proche du zéro absolu. Donc, c'est des grosses machines, hein, moins 270 degrés. Donc, c'est des grosses machines. Ce n'est pas demain qu'on l'aura sur la table. Donc, ça ne change rien dans les 20 ou 30 prochaines années aux données de notre problème. Deux, si ça prend des photos, en fait, c'est très efficace pour certains calculs, mais pas du tout efficace pour d'autres. C'est efficace pour des calculs, qui sont des problèmes d'espace, en fait. Hein. Et typiquement, c'est efficace pour un problème bien connu qui est le problème du voyageur de commerce. Un truc banal, c'est je suis représentant en tapis, par exemple, et je veux parcourir les États-Unis pour vendre le maximum de tapis possible. Quel est le trajet que je dois suivre qui me permettent de visiter toutes les villes en faisant le moins de kilomètres? C'est un calcul que personne n'arrive à faire, hein, qui est extrêmement difficile à faire. Parce que dès qu'on augmente le nombre de villes, le nombre de possibilités augmente énormément. C'est le problème du voyageur de commerce. Et ça se résout beaucoup plus facilement en essayant de manière répétitive des schémas, les uns après les autres. Schéma, on regarde, on fait le calcul. Schéma, on fait le calcul. Schéma, on fait le calcul. Je simplifie, mais en gros, ça fonctionne comme ça. Donc, ça marche bien, beaucoup plus vite qu'un ordinateur classique pour certains types de problèmes. Mais pour d'autres problèmes, ça ne marche pas du tout. C'est beaucoup plus lent qu'un ordinateur classique. Donc, en fait, le quantique, ce n'est pas la même chose, c'est autre chose, en fait. Hein. Et aujourd'hui, quand on regarde, donc ça existe déjà, les services sont loués par IBM, par exemple. On peut louer du calcul quantique sur Internet. Hein. Et IBM dit que c'est une machine qui va accélérer Internet. C'est présenté comme ça. Mm-hmm. Pour certains types d'applications très spécifiques. Donc, ça ne change rien aux données de notre problème, hein, le quantique. Hein, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, typiquement, le technoscientiste, oui, mais après, il enlève. Ben non, donc c'est l'économie de la promesse. Moi, je peux vous dire, hein, c'est ma première expérience de ce genre d'économie de la promesse, c'était quand j'étais à l'Université de technologie de Troyes, en 98, et qu'il y a un laboratoire de nanotechnologie. Ils avaient fait un film sur les nanotechnologies. Il y avait 2 minutes sur ce qu'ils faisaient vraiment, c'est-à-dire presque rien, et 50 minutes sur ce qu'on pourrait faire un jour. On ferait comme ça, il y aurait un escalier qui apparaîtrait. On ferait comme ça, la vitre disparaîtrait. Enfin, c'est pas du tout réaliste. Alors moi, j'utilise beaucoup avec les étudiants une échelle de maturité technologique pour débunker un peu tout ça. L'échelle qui est utilisée par le département de la défense aux États-Unis ou par l'agence européenne spatiale, l'échelle de maturité technologique, technological readiness level, l'échelle TRL. En fait, quand on peut assez vite placer une technologie sur l'échelle TRL, et plus elle est haute, c'est la recherche fondamentale. 2, c'est éventuellement, on pense à quelques applications. 3, c'est on a testé quelques-unes, mais toujours à l'échelle de la recherche fondamentale. Donc, et 9, la technique est commercialisée. Et donc, dans le technoscientisme, on est toujours sur des solutions TRL 4, 5, 6, jamais 9. C'est-à-dire que c'est des solutions pour demain, après-demain, après-demain, et ce n'est pas sûr. Et ça permet de l'objectiver, en fait, cet effet de promesse-là. Oui, mais vous êtes où dans l'échelle TRL? Ah, d'accord, ça ne va pas être prêt pour tout de suite alors. Sauf que nous, on a besoin d'agir maintenant, donc on ne va pas utiliser vos outils puisqu'ils ne marchent pas. En fait, c'est très simple. Donc, ça permet de revenir dans le vrai progrès, celui qui se produit réellement, plutôt que celui que l'on promet qui se produira peut-être un jour.
Une question très terre à terre, très simple. Ce compteur Linky. Ah, est-ce qu'on a le droit, parce que je n'ai toujours pas compris malgré tous les textes, est-ce qu'on a le droit de refuser son implantation? Et deuxièmement, à quoi ça sert pour le consommateur? Pour EDF,
je ne connais pas assez, je ne peux pas te dire.
Je connais pas
assez. On regarde ça vite fait, mais c'est une des. Parce que le problème aussi dans le numérique, c'est qu'il y a tellement d'applications dans tous les domaines qu'on ne peut pas tout suivre. Quoi. C'est avec un même niveau de détail, c'est la quantité de choses qu'il y a. Mais l'idée générale est toujours quand même un peu la même. C'est cette idée qui revient tout le temps d'ubiquité. Alors c'est un monomédia, c'est ça aussi qui pose beaucoup de problèmes. C'est un monomédia, c'est-à-dire que, en fait, avant, quand on avait une émission de télé et une émission de radio, ben, une émission de télé et une émission de radio, c'était deux supports différents, c'est des ondes différentes, c'était pas les ondes de même type. Donc d'ailleurs, tu pouvais écouter les deux, il n'y a pas un qui brouillait l'autre, c'est deux ondes qui se brouillaient pas l'une l'autre. Le papier, tu ne pouvais pas le faire rentrer dans la télé. C'est autre chose que les ondes radio. Alors que le numérique, c'est tout la même chose. Donc c'est très bien, on peut passer de l'un à l'autre facilement, d'une image à un texte, et bon, très bien. Sauf que oui, on peut passer facilement. D'ailleurs, tout le monde peut passer facilement. Les puissances étrangères, les GAFA, tout le monde peut passer facilement. Donc c'est le problème, c'est l'ubiquité, oui, mais pour qui ? Qui observe qui ? Donc c'est un peu ça, en grande partie, le problème du compteur Linky. Est-ce que ça sert à la personne pour, et là aussi, informer sur sa consommation personnelle ? C'est un peu vendu comme ça à un certain moment. Bon, ok, très bien, pourquoi pas ? Mais il faut socialiser derrière. Il faut socialiser. Donc, ça ne sert à rien de mettre, c'est quelque chose qui est trop individualisé, ça n'a pas beaucoup d'effet. Parce que derrière, c'est des modes de vie. Là, il y a un exemple dans l'Internet des classes populaires de Françoise Pasquier que je trouve très bien. C'est que, je ne sais plus où elle l'a repris, elle montre comment l'organisation des cuisines dans les maisons contemporaines, en fait, sont très liées à, comment il s'appelle, celui qui a ouvert les agences immobilières.
L'effet Plaza.
Voilà, l'effet Plaza. L'effet Plaza. En fait, la manière dont les cuisines sont aménagées, une partie des maisons sont aménagées aujourd'hui, notamment à la vente, dans les classes populaires ou ailleurs, ces cuisines américaines ou des choses comme ça, maintenant c'est un peu comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'intérieur des maisons dans les années 80. Ben, ça s'est en grande partie discuté au travers, de manière indirecte, au travers de l'émission de Stéphane Plaza. Ça, c'est bien connu aussi dans l'usage que les classes populaires font des contenus. Elles n'en produisent pas ou elles en produisent très peu, elles font suivre. Elles sélectionnent, elles likent et elles font suivre. C'est-à-dire qu'elles disent, moi, je me reconnais là-dedans. Elles ne produisent pas de contenu, mais elles prennent des contenus produits par d'autres pour dire, ceux-là, je les aime, je m'y reconnais. Donc, elles ont des porte-paroles. C'est bien connu en sens de l'information et de la communication. Elles utilisent des porte-paroles. Et là, sur l'aménagement des intérieurs de maison, apparemment, cette émission a joué un rôle assez, assez important. Bon. Donc voilà, il y a des discussions en fait, qui se passent dans la société, qui sont pas une discussion comme on fait nous, c'est pas vraiment des discussions de classe populaire. C'est pas comme ça que se jouent les discussions. Nous, on est parmi les lettrés, on a l'habitude de discuter, de débattre. C'est une certaine manière de faire, quoi. Donc, dans les modes de vie, c'est pareil, pour les faire évoluer, il faut leur donner, faut donner la possibilité d'évoluer suivant les manières que les gens ont de discuter. Donc, il faut les identifier, ces manières-là.
Est-ce que le boycott peut être une solution de ne plus avoir de portable, de carité de survie ?
Ouais, ben, ça, c'est. Il y a Hervé Krief. Écrit un bouquin, l'internet ou le retour à la bougie, il conclut en disant je suis pour le retour à la bougie. Bon, voilà, et effectivement il n'a pas d'internet, il n'a pas de téléphone, il n'a pas de, oui, bon, je sais pas. Après c'est chacun qui va qu'est-ce que ça veut dire être une solution. C'est parce qu'on est convaincu soi-même que c'est ce qu'il faut faire.
Décoloniser les imaginaires, c'est un peu ça aussi, parce que là, on est totalement colonisé.
Ouais, après, la difficulté, c'est que une partie de l'espace public, maintenant, il se trouve là, une partie de. Enfin, on a vu avec les Gilets jaunes et Facebook. Voilà, est-ce que c'est pas. Qui est-ce qui se. Voilà, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de réponse. Là, on est dans. C'est pour ça que j'ai une réponse un peu plus procédurale, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire à mieux informer le débat plutôt que de dire ce qu'il faut faire. Mais dire ce qu'il faut faire, en termes de résultats, c'est-à-dire de mode de vie, c'est l'objet de la discussion civique, de la discussion dans la société, d'avoir des gens qui, effectivement, prennent des positions fortes. Il s'est fait inviter dans plein d'endroits. Hein. C'est... Donc, ça fait... Voilà, ça pose question. Les gens se disent « Ouais, mais moi, non. » Parce que j'étais dans un débat avec lui et certaines personnes disaient « Ouais, ouais, super. » D'autres disaient bah, « Moi, non. » Et... Hein, on progresse comme ça. Et... Mais y a une discussion continue sur les modes de vie, en fait. Donc, on est tout le temps en train de socialiser nos modes de vie. C'est... Les petits gestes, d'une certaine manière, ils n'existent pas, en fait. Donc, c'est une espèce de faux débat, cette histoire de petits gestes qui est… Voilà, je pense qu'il faut.
Mais il y a quand même une question politique derrière de régulation. L'un des exemples qui me vient à l'idée, c'est on a vu depuis 5 ou 6 ans, par exemple, se multiplier partout les écrans numériques dans les gares, les stations de métro, etc. Quand ça a commencé il y a 5 ou 6 ans, il y a eu un rapport de l'ADEME qui avait calculé qu'un écran numérique, je ne sais plus quelle taille, à peu près la taille de ce qu'est kimono, c'était pratiquement la consommation d'un ménage français sur l'année. Et dans le rapport de l'ADEME, il disait notamment ça serait bien au moins de réfléchir à un moyen de les éteindre quand on arrive à des moments, justement, tu avais dit, de pic, tu sais, en hiver, quand on risque justement le blackout
pour parce alléger
qu'on trop, donc on est obligé de rallumer les centrales à charbon, un truc comme ça. Et c'était dans le rapport de l'ADEME il y a 5 ou 6 ans. Cette année, on a toutes ces questions parce que les centrales nucléaires sont fermées pour raison de corrosion, etc. On s'interroge de nouveau sur cette question, on rallume les centrales à charbon, on est tout le temps sur cette question de la production et on ne voit pas dans le débat public de réponse sur est-ce que avant de penser comment on augmente la production, est-ce qu'on n'a pas des solutions de sobriété immédiates pour repasser cette crête. Et le fait, par exemple, de dire en hiver, à partir de 18h, où on sait que c'est un problème, est-ce qu'on ne pourrait pas éteindre
ce genre de choses.
Là, on n'est plus dans le geste individuel, c'est une réponse sociétale.
Oui, mais parce que mais là-dessus, je pense qu'il y aurait un consensus. Enfin, je ne vois pas qui s'opposerait à ça, à part les lobbies. Qui se dirait « Ah, mais si, moi, j'ai besoin de mes écrans dans l'espace public. » Mais personne, en fait. Donc, on est sur une mesure qui fait totalement consensus, mais qui n'est pas prise parce que il y a des intérêts économiques derrière. Et voilà, donc c'est là où il y a besoin de discuter, c'est les mesures qui ne font pas consensus. Comme je dis, il y a deux types de sobriété tout à l'heure, des sobriétés plutôt classe populaire, des sobriétés plutôt classe supérieure, ce n'est pas les mêmes. Et du coup, là, pour faire une seule loi pour tout le monde sur la sobriété, c'est compliqué. Donc, c'est là qu'il y a besoin de faire travailler. C'est quand il n'y a pas, on peut pas faire de loi quand il n'y a pas un minimum de, peut-être pas de consensus, mais une certaine majorité suffisamment importante. C'est pas simplement une question de majorité à l'Assemblée nationale. C'est qu'on le voit dans le domaine de l'environnement, par exemple, il y a plein de lois qui ont été votées, on voit très bien, elles ne sont pas appliquées, parce que ce n'est pas ancré dans les modes de vie. C'est ou le 80 km/h, ou c'est pas ancré dans les modes de vie. C'est la taxe carbone, ça n'avait pas de sens. Donc on peut la voter, ouais, très bien, mais sauf que voilà, on se retrouve avec les gilets jaunes, parce que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas que les gens, sur le fond, sont en désaccord. Parce que les oppositions, tu as bien vu dans notre numéro, les oppositions de fond, c'est bon, on peut pas rouler moins. Le produit de la taxe, il sert à alimenter quoi? Et pourquoi c'est nous qui payons alors qu'il y a d'autres qui polluent? Les objections, elles ne remettent pas en cause l'objectif de la taxe carbone, qui est de réduire le risque de changement climatique. Elles ne remettent pas en cause cet objectif-là. Elles remettent en cause des moyens d'y arriver. C'est pas pareil. Donc, en fait, il y a un accord sur le fond, mais la manière d'y arriver pour changer les modes de vie, là-dessus, il n'y a pas d'accord. En tout cas, sur cette mesure-là, comme il n'y a pas d'accord, ça génère une opposition et donc ça ne passe pas. Si l'objectif, c'est que ça passe, il ne faut pas voter des trucs pareils. Moi, depuis longtemps, je dis que la taxe carbone est une connerie. Et bon, mais c'est un truc d'économiste, ça. C'est tellement, disons... la société est devenue tellement abstraite dans la vision de l'économiste qu'il peut penser que ça peut marcher, alors qu'évidemment, ça ne marche pas. Il n'y a pas de bon niveau de la taxe carbone dans lequel ça marche. Il n'y a aucun pays dans lequel la taxe carbone a joué un rôle significatif. Aucun. Je ne sais pas, mais il faut arrêter un moment, tu vois. Le truc qui ne marche pas, ça ne marche pas, quoi. Voilà, il faut... Au bout de 25 ans, stop.
Je crois qu'on va, s'arrêter ici. On va laisser la... Vas-y.
Vraiment rapidement, je voulais vous demander, tout à l'heure, vous parliez des petits gestes au quotidien. Là, maintenant, on parle de régulation, ce qui me paraît un peu plus pertinent. Et moi, justement, cette sobriété numérique, je la mets un peu dans la même case que les petits gestes du quotidien, comme trier ses déchets ou faire attention à votre alimentation. Voilà. Moi, c'est mon avis personnel, je pense qu'à notre échelle personnelle en tant qu'individu, ça ne changera rien. Quand bien même un tiers de la population se met à agir de la sorte, ça ne changera rien. Du coup, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe, mais sur le plan mondial vraiment, pour que les dirigeants, puisque pour moi la solution va venir d'eux, c'est à eux de prendre des mesures vraiment drastiques pour qu'on arrête tout à un certain niveau. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que cette prise de conscience soit telle que les intérêts économiques passent après? Oui, quel élément déclencheur il pourrait y avoir?
L'histoire montre que pour prendre des changements brutaux. Alors déjà, parfois, ils ne viennent pas du tout des États. Si on regarde l'effondrement de l'Union soviétique, personne n'a voté pour. Hein. Et pourtant, quel changement ? Il n'y a eu aucune décision. Hein. Et il y a plein d'exemples de ce type-là.
Mais je parle notamment du coup pour la protection de l'environnement et le réchauffement climatique.
Oui, mais bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que dans le cas de changement brutal de très grande ampleur, dans le cas du réchauffement climatique, pour l'instant, on n'en a pas eu. Donc, il n'y a pas d'exemple à se mettre sous la dent. Donc, on est obligé de prendre dans d'autres domaines. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que évidemment, l'État joue un rôle. Mais l'État, contre sa population, il se met à dos sa population, c'est tout ce que ça fait. Donc, on ne peut pas dire non plus que c'est la solution miracle qui va forcément fonctionner. L'État va réussir à mettre en œuvre ce qui est souhaité par une bonne partie de la population, qui correspond en grande partie à ce que les gens, dans leur mode de vie, trouvent qui ne va pas et qui devrait être changé.
Je trouve pas la raison dans le sens, c'est qu'il faut les aider, les influencer, et à leur mettre une rigueur, peut-être une discipline, c'est peut-être pas les bons mots employés, ça fait très autoritaire comme ça, mais histoire, parce qu'on est d'accord pour dire que beaucoup de personnes sont au courant de ce problème climatique qui va nous frapper de plein fouet très prochainement, même ça a commencé en fait. Mais personne n'est prêt à changer parce que ça ne vient pas d'en haut non plus. Si on encourage les gens par des régulations, mais aussi des mannes financières qui peuvent les aider à se réinvestir autrement, peut-être que là, on va les aider à prendre part. Parce que la conscience est déjà prise, je pense.
À aider
à les aider à évoluer et avoir ce changement-là. Vous parliez de lock-in, mais si on les aide financièrement, peut-être qu'il y aura le lock-in financier, écologique.
Oui. Alors, ça dépend quel problème on parle. Mais si on parle, par exemple, si on parle du numérique, je sais pas, si on prend le cas des transports, c'est peut-être plus facile pour l'illustrer. Donc, la taxe carbone, ça n'a pas marché. On est d'accord. Donc, ça ne remarchera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il y a une question qui n'est pas mise sur la table et moi qui me semble absolument centrale en termes de transport, c'est l'aménagement du territoire. Parce qu'on parle beaucoup des voitures électriques, mais les voitures électriques, ça ne va rien résoudre du tout. Ce qu'il faut, c'est l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire au sens où la remise en cause du modèle pavillonnaire. Parce que qui dit pavillon dit une certaine surface, et par contiguïté, forcément, pour beaucoup de pavillons, c'est forcément étalé. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, il faut forcément des voitures, parce que des bus dans ces zones-là, c'est des bus qui tournent à vide. Il faut des centralités pour remplir les bus. Comment on fait? Donc, on tombe sur le problème de la poule et de l'œuf. Il faut des bus, faut qu'il y ait des gens qui prennent le bus. Il faut qu'il y ait des centralités. Mais pour qu'il y ait des centralités, il faut aussi qu'il y ait des bus. Et quand on regarde les collectivités territoriales, comment elles font, elles sont tout le temps confrontées à ce genre de problème. Là, je vois vers chez mes parents, c'est un exemple type. Ils ont mis en place le tram-train dans un premier temps. Oui, il y a eu une petite demande, mais bon, c'est pas extraordinaire. Et puis maintenant, avec tout ce qu'on raconte, le changement climatique et tout, cette espèce de prise de conscience, il y a plus de gens Est-ce que les gens vont, maintenant ont compris, on en est au stade de compréhension où il faut choisir un logement non dépendant de la voiture. Donc, ça veut dire avoir plutôt un jardin collectif, public, plutôt qu'un jardin individuel ou des choses comme ça. Je n'ai pas l'impression pour le moment. Donc, moi, je veux bien, enfin, comme vous dites, mais essayez de faire une loi, vous allez voir que je pense que ça va être quand même compliqué parce qu'il y a des modes de vie, vous allez heurter des modes de vie, en fait. Donc, l'enjeu, c'est comment faire évoluer ces modes de vie pour que ces modes de vie, non seulement ne soient plus heurtés, mais se disent au contraire, ah, super, cette loi va nous aider, comme vous dites. C'est, effectivement, c'est l'objectif, c'est une loi qui est perçue comme apportant de l'équilibre, de la sobriété dans la société. Là où il y a de l'excès qui fait des dommages. Quoi, hein.
Parce que si on fait
c'est bien l'objectif.
Oui, parce que si on fait du contraignant pour les influencer, ça donne déjà envie. C'est ça.
Donc, c'est toute la difficulté. Alors, après, ce qui est frustrant, c'est qu'on a envie d'agir vite parce qu'on voit qu'on n'a pas trop le temps. Et il y a la tentation de trouver un pouvoir qui change les choses comme on veut, vite. Comme ça résoudrait le problème. Alors, d'une part, enfin, c'est pas si simple, malheureusement.
J'ai un peu une vision utopiste de la chose, ça certainement, mais c'est juste qu'un exemple concret, puisque je reprends le titre du bouquin, dans le débat public et dans la sphère médiatique, pardonnez-moi, mais l'impératif de sobriété numérique, on ne l'entend vraiment pas beaucoup.
Ah ouais, c'est pour ça que je propose
Oui, voilà, c'est justement très bien, mais ça, déjà, je trouve ça dramatique, parce que là, vous parlez de problématiques qui vont arriver. Certes, qui ne vont pas nous impacter de suite, comme par exemple les émissions de gaz à effet de serre dont on entend parler depuis des décennies maintenant, mais c'est quand même un enjeu qui reste pour moi fondamental et qui arrive très vite, plus vite que ce que l'on croit.
Mais là, j'étais donc au Parlement européen et ce qu'ils m'ont dit, donc une petite conférence là-dessus, et organisée par les Verts, qui disait qu'ils en étaient à espérer que ça mette le problème à l'agenda. Donc, c'est voilà où ça en est les discussions. Donc, on n'en est pas. Enfin, ce que je dis, c'est très minoritaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'interventions ici ou là. Il faut écrire des bouquins. Pour arriver à ce que petit à petit, on soit plus nombreux. En étant plus nombreux, on va ouvrir des possibles qui sont pas possibles pour le moment, parce que là, quelque part, écrire un bouquin, c'est une sorte de petit geste d'une certaine manière. Hein. C'est pas ça qui va changer. Énormément de choses, mais bon, l'idée c'est que ça fasse des petits et que voilà, prendre un peu mieux conscience et qu'à la fin il y ait une opposition suffisamment forte pour que l'IA on n'en veut pas et quand on interdit l'IA, tout le monde dit ah, quand même, ça fait du bien au lieu de se dire non, on nous prive du progrès.
Mais d'un autre côté, on a une idéologie qui nous vend l'IA comme peut-être le
C'est tout le problème, effectivement, d'arriver à combattre cette idéologie et derrière les modèles d'affaires qui sont derrière. C'est ça aussi.
Surtout les mannes financières qu'ils ont pour mettre en place.
Parce qu'ils ont de l'argent. Parce qu'ils ont de l'argent. Ça, c'est sûr.
Beaucoup d'investisseurs.
Non, mais on est bien d'accord. Ils lisent pas mes bouquins.
Mais il existe pas une instance de régulation internationale concernant le numérique ou de réflexion
Si, mais sur l'aspect médiatique, si tu veux, des données, en fait, hein, c'est-à-dire la souveraineté des données, la vie privée, la propriété des différentes, l'organisation des différentes briques fondamentales, les adresses IP, les codes DNS ou des choses comme ça. Donc c'est de la régulation logicielle, mais moi j'ai vérifié, sur les grandes conférences internationales sur le numérique, quand ils parlent d'écologie, c'est pour dire que le numérique c'est bien en cas de catastrophe écologique. Les systèmes d'alerte, de monitoring. Mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc la discussion, la législation qui essaye de réduire l'impact écologique du numérique est une discussion qui est totalement dissociée de la législation qui entend favoriser la 5G, la 6G, la 7G. C'est dissocié en fait. C'est de la même manière que ce qui se dit à l'OMC est assez dissocié de ce qui se dit dans la conférence sur le changement climatique. De la même manière. Donc, c'est deux mondes différents. Il y a un monde où on se dit « ouais, c'est super », et l'autre monde où on se dit « oula, il y a un problème ». Et le problème, c'est comment on agrège les deux faces de la question, sachant qu'évidemment, certains n'ont pas trop envie d'en entendre parler. Quoi. Parce que les gens, depuis le début, c'est ce qu'on montrait dans notre bouquin de 2009 aussi, hein. Le monsieur et madame tout le monde, quand ils voient un truc comme ça, ou même un Nokia 3310, ils disent c'est bien, mais dans quelle poubelle je le mets? Ils voient bien qu'il y a un problème, que c'est un objet inhabituel dont on ne sait pas trop quoi faire. Et on avait demandé, en fait, dans les focus group avec une sociologue, là, un rapport qu'on avait fait en 2009, on avait dit, on avait demandé aux gens. Et alors, qu'est-ce que ce serait pour vous, une TIC verte, un numérique vert, qu'est-ce que ce serait? Il dit solaire, à manivelle, des choses comme ça. Donc, les idées générales, bon, ils voyaient bien qu'il y avait un problème. Et puis, alors, quand on leur demandait qu'est-ce qu'il faut faire alors, ils disaient faire payer très cher, ne pas acheter. C'était vite des solutions de ce type-là, hein, très vite. Mais c'était en 2009. En 2009, on n'avait quasiment pas de smartphone. Donc, ne pas acheter, c'était plus facile qu'aujourd'hui, quoi.
Je crois que tu es pour les bonus-manus quand même, en règle générale, non, sur les produits.
Oui, oui, ben oui, enfin, faudrait. Non, mais on pourrait, là, on a eu la discussion tout à l'heure là, à Strasbourg, on pourrait aussi brider. Tu vois, c'est brider les téléphones 8K, il faudrait les brider en HD. Tu vois, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de résolution. De la même manière qu'on pourrait brider les Porsche à 100 chevaux. Ça serait rigolo, ça n'avait pas plus vite qu'une Logan. Non, mais on pourrait se dire c'est indécent et ça doit être bridé. Ils prennent toute la place, notamment toute la bande passante. Ce qu'a fait Netflix, hein, pendant la période Covid, Netflix prenait trop de place, ils ont diminué la résolution de leurs vidéos et ça a permis d'avoir de la place sur le réseau. Et ça suppose de remettre en cause la neutralité du net aussi.
Non, ce que j'allais dire,
c'est parce que pour l'instant, la règle sacro-sainte dans le domaine de l'Internet, c'est que tout ce qui est mis en termes de transmission de l'Internet doit être acheminé avec la même vitesse que n'importe quoi d'autre. C'est ça la neutralité du net. Donc ça conduit les opérateurs de transmission derrière à câbler pour assurer cette neutralité du net. Et, bon, les assos, c'était un peu pour ça, hein, les assos, la quadrature du net, elles poussaient en fait indirectement au techno déploiement. Et non, il faudrait dire que la bande passante, elle est limitée, voilà. Donc principe de contiguïté, elle est limitée et donc il faut la répartir. Il y a les voies de bus. Transport en commun, prioritaire. Et puis, il y a les Porsche. Ben, les Porsche, elles ont un gros malus, les Porsche. On met une vitesse maximum, 130, comme sur l'autoroute. Enfin, jusqu'à un certain point, ça marche, hein, ce genre de raisonnement. C'est-à-dire que l'IA, tant que l'IA n'a pas démontré qu'elle était absolument essentielle, quelqu'un, là, dans cet après-midi, dans le débat, disait qu'il y a des recherches qui ont été engagées avec un gros financement pour savoir comment optimiser la prise d'aliments par les personnes âgées dans les maisons de retraite. C'est super intéressant. Ça, c'est de l'argent bien investi, hein. Ça, c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas de personnel.
Bien sûr, c'est bon.
Bon, ben voilà, ce genre de choses dont on n'a pas vraiment besoin. C'est récupérer de l'argent.
Surtout que le discours de Milan pour répondre aux questions qui ont été posées, c'est quand même c'est la technologie qui va nous sauver. Enfin, le grand récit de Macron qui a répondu aujourd'hui, c'est grâce à Internet, grâce à tout le reste, qu'on va réussir à dépasser le changement climatique. Donc on a quand même cette image-là, et depuis élu Crawford et d'autres, on sait très bien que c'est le contraire qu'il faut faire, sauf que la technologie, on en est prisonnier aujourd'hui. Donc, voilà, comment combattre ce discours technophile, c'est vraiment la question de fond.
C'est la question de fond à partir de laquelle on peut ouvrir des possibles différents. Mais effectivement, tant que l'imaginaire et qu'en fait, il n'y a pas de problème. Non seulement il n'y a pas de problème, mais c'est plutôt une solution. C'est sûr que, bon...
D'où la question des modes de vie, peut-être, de les adapter, quitte à complètement changer ce qui a été ancré dans les mœurs et dans les façons de faire depuis des siècles. Et puis moi je pense, enfin, la solution elle est là, et c'est pour ça que l'importance des modes de vie elle est primordiale. Mais après c'est vrai que j'entends complètement, et qui et quand on pourra le faire on ne sait pas, mais en tout cas cette question du mode de vie, des habitudes, quoi, parce que vous parlez des Porsche, mais qui a déjà fait monter sa Porsche à son chevaux, enfin, je veux dire, c'est comme moi avec mon téléphone, je ne regarde jamais de vidéo dessus, et pourtant j'ai un iPhone dernier cri, alors que moi-même, je me pose la question de pourquoi j'en ai acheté un puisque je n'utilise pas.
Ils sont forts. Hein.
Mais oui, voilà. Donc, c'est pourquoi, par même en cours, on est 40 dans la classe, pourquoi il y en a qui ont des Mac et il y en a d'autres qui ont des Asus à 4 fois moins cher. Puisque la même utilisation, ouais, bah, juste faire des recherches internet et taper des documents.
Oui, des trucs très basiques. Ouais.
C'est
toute une réflexion, une prise de conscience, des implications et derrière aussi une socialisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toute une classe ou une école commence, ou une administration aussi, hein, passer sous Linux ou. Avoir une réflexion sur toutes ces questions-là, faire des choix et qui eux-mêmes en entraînent d'autres. Et voilà. Alors, disons, la bonne nouvelle d'une certaine manière, c'est que l'histoire montre quand même que s'il y a bien une constante dans l'histoire, c'est que l'histoire n'est pas constante, justement. C'est qu'il y a des accélérations dans l'histoire, des moments de changement assez rapides, la chute de l'Union soviétique étant un peu un exemple type, où les choses vont changer très vite. Donc, il n'est pas impossible que suite à un événement ou un autre, qu'en fait, on soit beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense à penser à peu près la même chose et qu'à un certain moment, un événement fera qu'il y aura une espèce de déclencheur d'un changement assez rapide. Ce n'est pas impossible, hein, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Donc, en fait, on ne sait pas exactement ce que les gens pensent. Donc, il y a un potentiel de changement dont on ne sait pas à quelle hauteur il est exactement. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il peut se déclencher, en fait.
Croire, comme disait Morin, au surgissement de l'imprévu.
C'est ça.
Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'on a été assez loin, puis je vois qu'en ligne, les gens sont en train de commencer à partir manger. On avait une petite annonce de la librairie, les prochaines rencontres. Donc,
bonsoir à tout le monde. Bonsoir, je voulais juste vous annoncer la prochaine conférence, animation, rencontre de la librairie Utopia. Donc, ce sera normalement, on fait souvent ça le mercredi. En fait, ce sera jeudi prochain, jeudi en 8, le 17 février. Et on parlera de nucléaire, et à la fois de nucléaire civil et de nucléaire militaire, avec deux personnes qui sont invitées et qui s'appuient aussi sur des ouvrages relativement récents. Donc, on aura Jean-Marie Collin, qui est porte-parole de ICAN France. Et ICAN, c'est la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Donc, il sera avec nous et accompagné de Serge Aumenier, qui, lui, est un militant activiste sur Bure depuis, je pense, une trentaine d'années. Et lui, il s'appuie sur un livre qui s'appelle… je cherche son titre… Bure contre le nucléaire et son monde, excusez-moi. Et le livre de Jean-Marie Collin s'appelle L'illusion nucléaire. Donc voilà, on sera deux à échanger sur ce sujet-là entre 18h30 et 20h le 17 février. Donc un rue Frédéric Sauton dans le 5e et par Zoom, comme d'habitude aussi ce soir-là. Merci à vous.
Et donc, j'ajoute, comme c'était mis dans le chat, que s'il y en a qui sont en ligne mais qui voudraient une dédicace de l'ouvrage, ils peuvent nous envoyer un petit message sur le Zoom et on fait dédicacer l'ouvrage par Fabrice, donc soit l'impératif de la sobriété numérique, soit la numérisation du monde, et on vous les laisse à la librairie, vous pouvez passer les prendre plus tard. Voilà.
Je voulais ajouter que cette expression « et son monde », il faut se demander le monde qui va avec tel ou tel mode de vie qu'on choisit à titre individuel, mais quel est le monde qui va avec, en fait? Là, on voit bien la dimension de socialisation, en fait. Cette expression le traduit assez bien, je trouve.
Eh ben, merci à toutes et tous de nous avoir suivis, soit ici, soit en ligne. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, à bientôt. À la librairie, c'est ça. Merci à vous. À demain.
C'est réutilisé.
C'est une blague.
C'est réutilisé.